enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous lisons ensemble un texte dans le livre de la Genèse. Chapitre 11, à partir du verset 31. Et mon thème général sera « En route avec Abraham ». Nous lisons ensemble. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terah furent de 205 ans, et Terah mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Verset suivant, il est marqué « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. » Dans Romains 4, verset 16, je vous invite à écouter ce qui est marqué là. « Ainsi, la promesse a été faite à cause de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui croient comme Abraham a cru. Abraham, est-il marqué, est notre père à tous. Comme le déclare l'Écriture, j'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a cru. Abraham, un simple citoyen d'Ur en Chaldée, qui apparemment serait une extrémité, en tout cas limitrophe, avec l'Irak actuel. Cet homme n'avait pas de caractéristiques particulières, ni de qualifications extraordinaires pour qu'un jour Dieu vienne lui parler à son oreille. Un ancêtre à lui était Sem, un des fils de Noé. Il était l'arrière-petit-fils de Noé lui-même. Terah était le père d'Abraham, nous l'avons lu, originaire lui aussi d'Ur en Chaldée. Il avait deux frères, dont un est décédé, et une demi-sœur qu'il a mariée, Sarah. Il vivait 2000 ans avant Jésus-Christ en Babylonie. Et cet homme n'a jamais mis les pieds dans une église. Il n'a jamais vu d'évangéliste. Il n'a jamais eu une Bible en main. D'ailleurs, la loi biblique, la loi mosaïque, est venue des années plus tard. Elle n'existait même pas encore. Il n'a même pas été déclaré comme Noé. Vous pouvez lire dans vos Bibles. De Noé, il est dit qu'il avait été un homme intègre et juste. Et on peut comprendre pourquoi Dieu l'a choisi pour le sauver lui et son clan. Mais alors Abraham, il n'est même pas dit ça de lui. Finalement, on pourrait penser qu'Abraham n'a été ni meilleur ni pire que n'importe qui au monde, comme vous et moi, et que finalement, monsieur Abraham était le représentant type de monsieur et madame tout le monde. Et pourtant, nous avons lu dans Romains 4, verset 16, qu'il est déclaré par Dieu lui-même le père de tous ceux qui ont la foi, qui auront cru comme lui, non seulement ceux qui descendraient de lui via la loi mosaïque, la généalogie naturelle, Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël, mais aussi de tous ceux qui croiraient comme lui. Et finalement, il y a une déclaration assez surprenante que nous lisons encore dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Jacques, au chapitre 2 et au verset 23, où il est dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Et maintenant, écoutez ça un instant. « Et il fut appelé l'ami de Dieu. » Alors moi, je me suis demandé, mais comment un monsieur tout le monde, un monsieur personne, un illustre inconnu de là-bas du Moyen-Orient, comment a-t-il fait pour passer d'un illustre inconnu au Père de tous les croyants, pour être appelé finalement, à la fin de son existence, l'ami de Dieu. Et c'est cette question-là qui m'a travaillé ces jours-ci. Et je voudrais donner trois simples petites réponses. Parce que finalement, Abraham et Sarai, c'est vous et moi. Ça pourrait être Chalini et Philippe. Ça pourrait être Georges et Béatrice, et vous pourriez mettre votre nom et votre prénom. Comment a-t-il fait pour devenir l'ami de Dieu? Remarquez, il ne l'est pas devenu du jour au lendemain. Mais ce qui me fait plaisir dans ce passage-là, c'est de penser que Dieu a son regard étendu sur le monde entier et qu'il aime tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur arrière-plan religieux, même s'ils font partie de la grosse masse des illustres inconnus comme vous et moi. Dieu aime tous les hommes. Mais Abraham a été comme nous et puis il a grandi. Et nous allons voir le caractère de cet homme. Parce qu'on dit tel père, tel fils, n'est-ce pas ? Telle mère, telle fille, tel père, telle fille aussi d'ailleurs. Hein. Et je voudrais voir, apprendre de lui ce que Dieu veut me donner d'apprendre de lui. Premier point, il est très simple. Abraham a appris à obéir à Dieu. Tout d'abord, Abraham a appris à obéir à Dieu. Et tout commence par une faculté que nous avons tous, c'est celle d'entendre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout commence par un appel à sortir de son contexte qui exige de faire confiance et d'obéir à une voix intérieure. Remarquez, Abraham n'a jamais été guéri. Il n'a même jamais été dit qu'Abraham avait prié Dieu et qu'il avait obtenu réponse. Non, Abraham n'a pas été touché ni foudroyé sur place par un attouchement divin. Il n'a pas eu de visite d'anciens ou de pasteurs, pas d'église autour de lui, rien et rien d'extraordinaire. Juste une voix perceptible, et elle encore par l'oreille intérieure du cœur. Nos cœurs ont des oreilles, le saviez-vous? Ils ont aussi des yeux pour voir ce que les yeux ici ne voient pas. Une voix intérieure émise par un personnage encore plus curieux et étonnant, parce qu'il est invisible et il s'appelle Dieu. Mais il avait entendu cette voix et il a commencé à bouger. Dans Hébreux 11, verset 8, il est dit par la foi ou par la confiance, c'est la même racine de mots. Par la confiance, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Et il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Et ce beau verset résume une superbe attitude. Mais voyez-vous, dans les faits, ça a été très différent. Dans les faits, il a mis du temps à obéir, mais il a obéi. Pourquoi ? Parce que dans Acte 24, nous lisons un texte tout aussi étrange. Acte 24, si vous avez vos Bibles, prenez-la. Acte 24, verset 7, on retrouve le diacre Étienne qui prêche un de ses derniers sermons avant de mourir. Il est dit au verset 7, verset 2 déjà, Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Verset 24, la même narration est reprise. Acte 7, 24, on se rend compte que Abraham est donc parti comme cela lui a été dit. Et puis finalement, Josué 24. On a deux récits de ce passage d'Abraham qui sort. Et Josué a un autre discours. Écoutez voir ce qu'il est marqué là. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nahor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multiplierai la postérité et je lui donnai Isaac. Les textes laissent clairement apparaître par endroits qu'en fait Abraham avait entendu Dieu lui parler. Visiblement, il en a parlé à son père, mais ce n'est pas Abraham qui est d'abord sorti. C'est Terach qui a dû emmener Abraham hors du pays d'Ur en Chaldée. Abraham avait donc du mal à obéir. Et finalement, on se rend compte aussi que la foi d'Abraham était fragile, qu'elle devait grandir, parvenir à la maturité. Et le mot terach, le terme terach veut dire retarder. Et la ville où ils se sont arrêtés, à Charan, veut dire lieu aride et brûlé. Dieu avait dit à Abraham, sors de ta famille. Au lieu de le faire, il va en parler à son père. Et pendant un temps, son père va l'encourager, va l'amener plus loin. Mais Terach va le retarder. Et pendant tout un temps, parce qu'il n'aura pas obéi entièrement, Abraham va passer du temps dans un lieu aride et brûlé. Ce n'est qu'à la mort de Terach, quand le père est décédé, que Dieu va à nouveau parler à Abraham. Ça nous donne quelques leçons à entendre. Tout d'abord, lorsque nous obéissons, on est invité à obéir entièrement. C'est une priorité absolue. Lorsque nous ne le faisons pas, nous commençons à nous mettre en route et à douter. Et finalement, on risque de s'arrêter, de prendre du retard et de tourner en rond dans un lieu aride et brûlé. Il ne fallait que 2 ou 3 mois pour aller de l'Égypte à Canaan. Que 2 ou 3 mois. Mais il fallait obéir à Dieu, relever les défis, passer la mer Rouge, passer le Jourdain, affronter les murailles de Jéricho, affronter les géants d'Anak. Et Dieu était derrière, appuyant jour après jour par ses providences divines. Excusez-moi, ils étaient pratiquement, certains pensent 900 000, d'autres 2 millions, peu importe. Ça faisait beaucoup de monde dans un désert pour manger et boire tous les jours, sans compter le bétail. Et tous les jours, Dieu pourvoyait aux besoins du peuple d'Israël. Mais devant les défis, ils ont reculé et finalement, ils ont retardé leur échéance d'arrivée et ils ont passé 40 ans dans un lieu aride et brûlé. Seconde leçon qu'on va prendre, c'est que obéir à moitié, c'est prendre le risque de tourner en rond dans le désert. Troisième leçon, la bonne nouvelle, Abraham est un homme comme nous. Au début, sa foi est fragile, mais elle a progressé, pour finalement terminer comme étant l'ami de Dieu. Alors rassurez-vous, malgré des fois les débuts chaotiques qu'on peut connaître, comme Abraham, Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu a continué à chercher et à travailler Abraham et à l'amener à maturité. Mais ce n'est que lorsque Abraham a recommencé à obéir que Dieu a recommencé à lui parler. Quand Dieu nous parle, il vaut mieux faire, et faire rapidement, et faire jusqu'au bout. Quand Dieu a dit à Pierre, jette ton filet, ben écoute, il a dit, Seigneur, bon, d'accord, puisque tu me le dis, mais allez, je le fais, c'est ta parole, mais je le fais. La fois suivante, il lui dit, sors de la barque, viens avec moi. Et Pierre n'a pas trop réfléchi, il est allé, vous savez quoi? Il a marché sur l'eau. Je suppose que les copains, ils ont dû se dire, plutôt lui que moi, hein. Et Pierre a obéi et ça a marché. Abraham a obéi et il a progressé. Nous avons obéi, nous pouvons obéir et passer d'une foi fragile à une foi forte et devenir l'ami de Dieu. Dieu peut-être ne vous parle-t-il plus actuellement? Êtes-vous sur une terre aride et brûlée? Peut-être faut-il se rappeler ce qu'il vous a dit la dernière fois qu'il vous a parlé et de le mettre en pratique. Et finalement, vous passerez une terre aride et brûlée vers le pays promis. Amen. Deuxième point. Abraham savait renoncer. Abraham avait appris à obéir, mais Abraham avait aussi appris à renoncer. C'est par la foi, est-il marqué dans Hébreux 11, verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Voilà un homme qui habitait à Ur en Chaldée. Et Abraham était déjà à la retraite. 75 ans, mesdames, messieurs. 75 ans. Il avait fait sa vie, il avait son bétail. À mon avis, il avait même une bonne, belle maison avec une piscine dans le jardin. Tout allait bien pour lui. Partir de chez lui, c'était sortir d'abord de son confort, de sa cité, de sa sécurité. C'était pas social, mais sécurité quand même. Il sortait de sa famille, il quittait des liens affectifs. Il devait renoncer à différentes choses. Et finalement, il est marqué là qu'il habitera sous des tentes, comme un nomade. Pire que ça, quand on lui demandait « Mais tu vas où, Abraham ?» Il ne savait pas où il allait. Il y allait, mais il ne savait pas trop. Voyez-vous, obéir et renoncer vont toujours de pair. Quelle chose illogique et folle pour un homme de son âge. Le renoncement, par contre, on nous rend toujours dépendants de Dieu. Celui qui ne renonce pas devient sa propre providence. Renoncer, c'est se défaire des sécurités humaines. Quand ce jeune homme riche a venu vers lui et dit « Jésus, mais bon maître, que faut-il que je fasse pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Mais tu connais la loi ?»« Oui, je connais la loi. » »« Ben alors, mets-la en pratique. Je le fais depuis que je suis jeune garçon. Je ne vole pas, je ne tue pas, je ne triche pas, je ne mens pas. » Tout à coup, Jésus lui dit « Écoute, il te manque une seule chose. Tu rentres chez toi, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres et tu me suis. » Cet homme devait se rendre dépendant de Jésus. Alors Jésus n'avait pas de grosse multinationale pharmaceutique derrière lui pour payer un bon salaire de directeur général. C'était un prédicateur ambulant. Il vivait de ce qu'on lui donnait. Quand on lui disait « Ah, je veux te suivre, Seigneur !» Il y en a à un moment donné, Jésus dit « Écoute, les oiseaux ont des nids, les renards des tanières, mais moi, je n'aime même pas trop mettre ma tête sur un caillou. » Alors, renoncer, c'est se rendre dépendant de Dieu. Mais voyez-vous, lorsqu'on se rend dépendant de Dieu, on est enrichi. Dépendant de Dieu. Récemment, j'ai eu un entretien avec quelqu'un et on parlait d'obéissance. Une brave personne, je vais rester très neutre là, une brave personne senior, et puis qui est à la retraite, et puis qui a vécu un veuvage, enfin qui vivait un veuvage, et puis on parlait du baptême, et à la fin je lui dis « Mais est-ce que vous êtes toujours seul ?» Parce que vous savez, comme ça, les vies familiales à la colle, c'est pas que l'apanage de la jeunesse. Hein. Alors je dis... Il me dit, non, je connais quelqu'un, je vis avec quelqu'un. Je dis, ah bon, vous comptez vous... Vous êtes marié? Ah non, on n'est pas marié. On n'est pas marié. Je dis, mais vous comptez le faire prochainement? Il me dit, non, comprenez. Et je comprends cet argument. Je le comprends très bien. Il me dit, on a chacun une petite retraite et si on se marie, la retraite du second conjoint va diviser en deux. Alors, comprenez, vous comprenez, pasteur. Alors, je comprends l'argument économique. Je ne suis pas idiot. Quand je vais au supermarché acheter mon gasoil, c'est pas parce que je suis pasteur qu'on me le fera payer moins cher. Je vous rassure. Mais cependant, je lui dis, si vous voulez suivre Jésus, ça va vous coûter ce prix-là. Mais je lui ai dit, parce que vous ferez ça, vous faites de Dieu votre providence. Vous faites de Dieu celui qui va pourvoir à vos besoins parce que vous lui faites confiance. Parce que vous lui faites confiance. Et Dieu honore celui et celle qui l'honore. Amen. Mais c'est difficile. Et je le concède. Mais ça vaut le coup. À un moment donné, les bergers de Lot et d'Abraham se querellèrent à cause d'un bout de champ où les deux troupeaux paissaient. Et à un moment donné, Abraham dit, mais écoute, on arrête de se bagarrer, Lot, on arrête de se bagarrer. Si tu vas au nord, je vais au sud. Si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. Et dans Genèse 13, il est dit qu'à un moment donné, Lot va lever les yeux vers les vallées vertes de Sodome et de Gomorre. Des vertes vallées qui signifiaient business, argent, succès, réussite financière. Et Lot va choisir ces vallées vertes, va s'y établir sans se rendre compte ou en peut-être ne voulant pas se rendre compte ou en se refusant de se rendre compte que la proximité de Sodome et Gomorre aura une influence sur les mentalités de son clan, y compris de ses filles et de sa femme. Oui, Lot apparemment était riche. Parce que voyez-vous, Abraham, lorsqu'il a choisi la direction inverse de Lot, va aller dans le désert. Mais il vaut mieux le désert avec Dieu que les vertes vallées de Sodome et de Gomorre sans Dieu. Mais pour un temps renoncer aux richesses malsaines qu'on peut vous offrir, plutôt et vivre avec Dieu et seul dans les moments de précarité que de vivre sans Dieu dans ces richesses malsaines. Que Dieu nous aide à cela. Et le manque de renoncement, à mon avis, est la raison de la pauvreté spirituelle. Lot était tellement riche en argent, en bétail, mais si pauvre en foi, si pauvre en espérance. Abraham, lui, était riche en espérance, riche de l'appui de Dieu. Et quand les temps difficiles sont venus, il a pu s'appuyer dessus et Dieu a été fidèle à ses côtés. Amen. Troisième point, Abraham avait appris à faire confiance à Dieu. Il est marqué dans Genèse 15, verset 4. À un moment donné, Abraham, le temps passe. Abraham attendait ce fils que Dieu lui avait promis, un Isaac, et puis il ne vient pas ce fils. Pourtant, ils travaillent les deux, mais il ne vient pas. Et à un moment donné, il est désespéré. Et Dieu le rencourage et lui dit, mais non, dit le Seigneur, verset 4. Ce n'est pas lui, ton serviteur Éléazar, qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il ajouta, comme elles, tes descendants seront innombrables. Abraham, est-il marqué, eut confiance dans le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Abraham avait appris au fur et à mesure, et nous allons voir ça dans les prochains temps, Abraham était un homme qui avait appris à faire confiance de plus en plus au Seigneur. Et cette confiance a résolu en lui trois questions fondamentales. Tout d'abord, elle a réglé le problème de la culpabilité envers Dieu. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il n'est pas dit qu'Abraham a rampé sur les genoux pendant 15 kilomètres, et finalement Dieu s'est laissé attendrir, et finalement Dieu l'a considéré comme juste. Abraham n'a pas fait des pénitences. Abraham n'a pas fait des prières. Abraham n'a pas fait d'acte religieux. Il n'a même jamais dit, « Oh Seigneur, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je suis comme monsieur tout le monde. » Il est dit que la raison fondamentale et l'unique raison pour laquelle Dieu a considéré Abraham comme juste, c'est parce que Abraham lui a fait confiance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, lui fait confiance, soit sauvé, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Romains 5, il est dit, « Étant donc justifiés, rendus justes par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Deuxième question fondamentale que la foi a résolue, c'est la question existentielle. Comment ferais-je pour vivre demain? Abraham avait tout à la maison, des réserves, des stocks, du bétail, des serviteurs. Il avait tout à Ur en Chaldée. Qu'est-ce qu'il allait se promener à Canaan, franchement? Mais franchement, c'est illogique. Dans Hébreux 11, verset 8, il est dit, « Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu lui avait donné en possession. Il partit sans savoir où il allait. Et ce faisant, il a fait de Dieu sa source et sa providence. Et finalement, c'est Dieu qui a le droit de pourvoir à tous ses besoins, à une maison, à des terres, à des serviteurs, à tout ce qu'il fallait pour lui et les siens, par la foi. » Troisième question, par cette confiance, il a résolu la question du sens de l'existence. Pourquoi est-ce que je vis? Pour qui est-ce que je vis? Et avec des mots très simples, Abraham dira un jour à Dieu, mais à quoi ça me sert tout ce travail, tout ce labeur, tous ces moutons, tout ce bétail, toute cette richesse? Je n'ai pas de descendant. Abraham, lui, il voulait un descendant. Dieu, lui, voulait faire de lui non pas le père d'un fils miracle, mais en plus le père d'une foule de nations, de l'ensemble des croyants, de tous les temps à venir, y compris vous et moi. Abraham avait une idée très restreinte. Dieu voulait l'amener plus haut, compte les étoiles du ciel, compte-les. Et Abraham va élever sa foi. Abraham fut rendu capable, est-il dit, par la foi encore, Hébreux 11, verset 11, d'être père alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même était stérile, il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Et en écho, Romains 4, 18 dit « Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain, il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. » Lorsqu'Abraham a commencé à faire confiance à Dieu, lorsqu'Abraham a cru en Dieu, lorsqu'Abraham a rencontré Dieu, il est rentré en collision avec sa destinée. Lui, il voulait être le gentil papa d'un fiston, d'un descendant, d'un héritier. Dieu, lui, il voulait faire de lui le père d'une grande foule de nations. Lorsque, plus proche de nous, l'apôtre Pierre va rencontrer Jésus, ce n'est qu'un simple pêcheur de poissons avec une vision très restreinte et très réduite, avoir tous les jours du poisson pour faire un peu de business, un peu de blé, pour avoir de quoi manger et faire vivre sa famille. Lorsqu'il va rencontrer Jésus et faire la pêche miraculeuse, il va dire « Arrière de moi, Seigneur, je suis un impur. » Et Jésus lui dit « Ne crains pas, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Pierre, le sens de sa vie jusqu'à ce présent-là était juste avoir du pain à manger, gagner un peu de pain avec du poisson qu'il pêchait. Mais Jésus, lui, avec sa rencontre avec Pierre, l'a amené en collision avec le destin de Pierre, être un pêcheur d'hommes. Sans la rencontre avec Jésus, Pierre serait resté un illustre inconnu dont l'histoire n'aurait jamais mentionné son nom. En ayant rencontré Jésus, Pierre est rentré dans le destin de sa vie, un apôtre, un homme qui allait gagner beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes à la cause de Christ. Allez par le monde entier, dit Jésus, prêcher la bonne nouvelle. Amen. Je termine. Abraham a été le premier homme de la Bible à être appelé un Hébreu, ce qui veut dire d'ailleurs celui qui a traversé. Il a traversé le fleuve de l'Euphrate et a commencé à suivre par la foi le Dieu invisible. Sa vie de foi a d'ailleurs exigé plusieurs fois des traversées entre guillemets. Il a traversé les frontières de sa famille. Il a traversé les frontières de sa patrie. Il a traversé la frontière de la peur en arrêtant de s'appuyer sur l'Égypte, c'est-à-dire le monde. Il a traversé la frontière des liens filiaux avec Lot, avec Ismaël et finalement avec Isaac. Et chaque traversée a existé sur le lot d'obéissance, de renoncement et aussi de démonstration de confiance. Abraham a cru, cette foi-là, cette confiance en Dieu est le mot-clé, ce fil rouge qui traverse toute la Bible et qui fait de ce monsieur tout le monde le père d'une foule de nations et finalement l'ami de Dieu. Comment est-ce qu'il est devenu ? Il avait appris progressivement à obéir. Il se peut que vous ayez une foi fragile. J'aimerais vous dire que Dieu veut vous amener plus loin. Peut-être vous tournez en rond quelque part dans un lieu aride, comme à Charan avec Terach. Les gens qui vous retiennent, les choses qui vous retiennent. J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas fini avec vous. Il veut vous amener plus loin. Il veut vous apprendre à marcher par la confiance. Deuxièmement, il veut vous apprendre à renoncer. Vous pensez plaire à Dieu parce que vous n'êtes pas si mal que cela. J'aimerais vous dire, il faut que vous renonciez à vos illusions sur vous-même. Un jour, j'ai dû renoncer à mes illusions sur moi-même et reconnaître que je suis un pauvre pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Et j'avais besoin de lui faire confiance parce que je ne méritais plus rien. Si, un coup de pied au derrière et en avant en enfer. Mais Dieu m'a fait grâce. Un certain soir, je me rappellerai à vie de ce soir où on a prié pour moi et où le poids du péché est tombé. Et où j'ai eu une joie indicible dans mon cœur. La paix du pardon, la joie du salut est rentrée en moi. Amen. Et finalement, Abraham a appris à lui faire confiance. C'est ce que j'apprends aussi et j'apprends encore. Parce que voyez-vous, sans lui faire confiance, sans lui faire confiance, et c'est le seul mot, c'est la seule chose à faire, sans lui faire confiance, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Alors question, voulez-vous entrer en collision avec votre destinée? Voulez-vous peut-être repartir de ce lieu sacré aride et marcher avec confiance vers Canaan, vers ce lieu que peut-être vous ne connaissez pas encore, que vous ne savez pas trop ce qu'il va y s'y trouver, mais une chose est certaine, Dieu y est déjà. Voulez-vous devenir l'ami de Dieu?
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.